France Inter, 11h04. Voici la bande originale avec Nagui.
Merci Dominique Delaroy. On vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. À tout à l'heure. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus. Bravo. Avec Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Siblis. Leïla Kadouri-Nadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour, bravo Daniel.
Bienvenue. Vous allez voir. Charles Arnac et notre invité, Cédric Clapiche.
Bravo.
Bonjour Cédric.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. On est ravis de vous accueillir alors que, paraît-il, vous êtes en plein tournage.
Non, je ne suis pas en tournage.
Ah, vous n'êtes pas en tournage.
Vous êtes en montage. Ça commence fort.
Je viens de finir le montage d'un film.
Ah, vous venez de finir. Ouais. Très bien. On va en parler tout à l'heure, mais surtout, on va parler d'une expo photo. J'espère, Tom Villa, que vous avez... Enfin, j'ai peur que vous n'ayez pas très bien compris, comme d'habitude, mais pourquoi Cédric Lapiche est notre invité?
Mais si, pour me faire plaisir, parce que Cédric Lapiche, c'est mon réalisateur préféré. Vous allez me voir rougir comme une fan de Justin Bieber. Je vous préviens, Cédric Lapiche, il me fait plus d'effet que Scarlett Johansson et Jessica Alba en train de se rouler des pelles. Voilà.
Oula.
Non, là, je suis très sincère.
Pression, Cédric.
Non mais c'est vrai,
c'est la première fois qu'on me dit ça.
Mais c'est compliqué de faire une chronique face à quelqu'un que t'aimes et que t'admires. J'ai eu moins d'emmerdes avec avec la plupart des autres invités, mais non mais c'est vrai, t'as envie de faire les choses bien. Du coup, tu stresses, tu te dis est-ce que ça va le faire rire, est-ce que ça, il va mal le prendre, est-ce que ma carrière est foutue à partir de maintenant. Non mais c'est vrai, Nagui, j'ai pas passé ma meilleure nuit, je vous le dis. En plus, l'exercice de la chronique est parfois ingrat. Regardez, hier on a reçu Stéphane De Groot pour Kaboul Kitchen, un Belge qui va chez les Afghans. Bah déjà c'est marrant, tu vois, c'est bon, on dirait une histoire de Jean-Marie Bigard. Mais sur vous là, Cédric, là vous venez pour une expo photo qui s'appelle Nature humaine.
Ouais.
Nature humaine qui n'a rien à voir avec des natures mortes, hein, justement. N'y allez pas en pensant que vous verrez des gens tout nus dans des corbeilles à fruits. On n'est pas chez Michou ou chez Nagui un samedi soir.
Dis donc, c'est pas loin de toute façon, c'est le même quartier.
Non, mais moi j'étais si content ce matin, je me suis levé ce matin en disant chouette, on va recevoir Cédric Lapiche, alors que vous vous êtes levé en vous disant bah je vais aller voir l'Égyptien et sa bande de baltringues. Alors par contre soyez détendus, je vous le dis, j'ai pas d'attente particulière. Voilà, j'attends pas de proposition de rôle dans la journée. On peut se rappeler demain. Toute façon c'est pas moi qui négocie, vous pouvez contacter mon agent Bertrand Delabbé. 01 43 17 33 00 ou sur son courriel beberledeglingo@yahoo.fr. Non mais c'est vrai, tout ce que j'ai fait depuis 10 ans c'est pour en arriver à ce jour là où ado je voulais devenir un rebelle, un vrai, un qui crache par terre, qui boit des panachés. Bah du coup j'ai fait quoi, j'ai regardé Le Péril Jeune. Bon, les cheveux longs et la veste en jean me faisaient plus ressembler à Joe Dassin, mais l'intention était là. Pareil un peu plus tard, je trouvais pas trop de sens à ma vie. Du coup j'ai regardé L'Auberge Espagnole. Vous m'avez donné envie d'aller faire mes études en Espagne. Bon, finalement, je ne les ai pas faites en Espagne. Je ne les ai pas faites du tout, d'ailleurs. Et puis plus tard, vous avez continué à rythmer ma vie. Par exemple, je suis sorti avec une Anglaise à une époque. Puis j'ai eu une crise de doute un peu existentielle. Du coup, j'ai maté les poupées russes et j'ai trouvé la solution. Je me suis tapé une Russe et ça a tout arrangé. Ça m'a coûté 200 euros, mais c'était très bien fait. Après, j'ai vu Casta Chinois et bon, là, j'ai arrêté. Faire un gosse, un couple de lesbiennes, se marier avec une Chinoise américaine pour avoir des papiers, là, ça devenait trop compliqué. Mais bon, voilà. Tout était prévu dans mon plan pour qu'on arrive à ce jour. D'ailleurs, je vous le dis, Nagui, c'est quoi la seule raison qui m'a fait venir sur France Inter rencontrer Cédric Lapiche. Ah. Donc c'était ma dernière, salut les cons. Nagui avec ses jeux de mots de comique troupier, Leïla avec sa culture qui l'étale comme du Nutella, Daniel avec ses blagues pourries et Fred avec ses meetings politiques. Allez, salut.
Tom, vous avez signé un contrat, je vous rappelle, à propos de votre agent d'ailleurs, jusqu'à la fin de la saison, donc vous pouvez pas faire autrement, vous êtes obligé de rester.
Eh ben ça calme.
Alors, mais attendez, mais c'était un compliment, comique troupier. Hein, faut pas le... Et j'adore le Nutella. Et,
voilà. Le Nutella, ça tombe bien.
Voilà, donc c'est gênant. Bon, je vous le dis, en tout cas, droit dans mes bottes de façon la plus hétérosexuelle possible et surtout professionnelle, mais Cédric Lapiche, je vous aime.
Oh, c'est bon. Merci. Et je confirme, il l'a jamais dit.
Ah oui, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Il l'a jamais dit, aucun.
Même dans l'intimité, hein, nulle part. Il ne l'a jamais dit.
Jessica Alba.
Donc, en tout cas, il n'est pas à l'aise, hein, Cédric. Il n'a pas enlevé sa doudoune, il est prêt à partir.
Retirez votre casque de moto, quoi.
C'était la moitié de Daft Punk jusqu'à présent. Cédric Lapiche, vous nous avez fait donc voyager au cinéma. Vous avez déjà proposé une expo photo. C'était il y a combien de temps la première expo que vous avez faite?
C'était il y a 4 ans, je crois.
4 ans?
Ouais.
Là, vous revenez à la galerie Cinéma Anne-Dominique Toussaint. C'est dans le 3e arrondissement de Paris jusqu'au 1er avril. Ça, c'est pas une vanne. Pour votre travail qui s'appelle Nature humaine. Au début, vous dites que votre idée de ne photographier justement aucun homme, juste la nature, ou du moins ce que l'homme a fait sur la nature, puisque vous avez fini le tournage d'un film donc autour du vin, autour du monde du vin. L'alignement des vignes, la préparation des champs, et c'est ce qui vous a touché, c'est ce qui voulait vous faire réagir en tout cas.
Oui, c'est vrai que les paysages de Bourgogne, mais c'est vrai que de tous les paysages viticoles, sont très dessinés, alignés, et on sent la présence humaine, même si il y a personne dans les vignes. Donc c'était ça l'idée de cette exposition, c'est de partir de mes photos de repérage, les photos vraiment qui ont permis de fabriquer le film, et puis de montrer à quel point finalement l'homme est partout dans la nature en France.
Mais vous n'avez pas le sentiment, oui, que c'est le cas dans n'importe quel cadre, que ce soit la vigne ou n'importe quel coin de France, a forcément l'empreinte de l'homme. Maintenant, il n'y a plus rien de naturel, totalement naturel.
Si. Ouais, je suis d'accord, il n'y a pas de forêt primaire en France, donc il n'y a pas de forêt qui n'a pas été plantée, donc tout a été planté, et donc le côté nature sauvage, ça n'existe plus en France. Donc c'est juste pour rappeler cette chose qu'on a souvent oubliée.
Alors, à la base, vous êtes photographe, ça a été même par le monde de la photo que vous êtes rentré dans le monde du cinéma.
Ouais, c'est-à-dire quand j'étais adolescent, je ne savais pas si j'allais plutôt devenir photographe ou réalisateur. Et puis voilà, au fil des années, la photo m'a servi à faire du cinéma, mais c'est vrai que j'ai commencé par la photographie. Ouais.
Et la photo est toujours utile pour vous dans votre travail de cinéaste, c'est-à-dire pour décider des cadres. Vous dites même qu'en prenant des photos, vous commencez déjà à imaginer des scènes qui pourraient avoir lieu dans ce cadre-là.
Ouais, ça je l'ai fait vraiment dans tous mes films, en fait. Par exemple, quand j'ai commencé à faire L'Auberge espagnole, il y a eu un photographe qui est parti en avance faire des photos, puis moi j'ai fait des photos. Et en fait, souvent, ces photos servent à inventer des scènes. C'est pas juste de savoir où sont les jolies rues et où sont les décors. C'est aussi de savoir comment on va photographier tout ça au sens littéral et comment on va faire le portrait de ça. Et donc, et ensuite, il y a beaucoup de choses dans mes films qui sont sur le rapprochement des lieux avec des gens, en fait.
Mais vous avez une idée de l'histoire, quand même.
Pas forcément.
Pas forcément.
Non, là, quand j'ai fait Ce qui nous lie, donc le film qui va sortir en juin.
Sur le monde du vin.
Sur le monde du vin.
D'où le jeu de mots.
Au départ, je savais que je voulais faire.
Enfin, après le jeu de mots. Hein,
sur ceux qui nous lisent.
C'est un retour.
Oui.
Un retour.
Non, au début, je savais que je voulais faire un film sur le vin, mais je savais pas exactement ce que serait l'histoire. Donc, j'ai vraiment inventé l'histoire avec justement ce travail photographique, puis le travail avec les acteurs.
Et la photographie, c'est une pratique du quotidien pour vous, ou c'est des moments particuliers? Comment est-ce que ça se pose en vous?
Non, c'est pas tous les jours, mais il y a des moments où justement je fais des photographies. Et le moment des repérages, c'est vraiment un moment où par contre je prends beaucoup de photographies. Donc c'est vraiment par période, disons.
Avec des appareils pro, des smartphones, vous êtes servi de trois appareils différents, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc quand il y a rien, c'est mon iPhone. Et puis sinon, j'ai des bons appareils photo aussi. Ouais.
Mais toujours en numérique, pas d'argentique, parce que
ouais, toujours en numérique maintenant.
Les amoureux de la photo, ceux qui se disent puristes de la photo,
ouais,
restent
de moins
en argentique.
C'est-à-dire que là maintenant, le numérique a quand même pris beaucoup le dessus.
Ouais.
C'est vrai que c'est un peu moins vrai en cinéma, parce que la transition s'est faite un peu plus tardivement. On continue à utiliser la pellicule 35. Pas mal, mais de plus en plus la transition vers le numérique se fait, quoi.
Dans la série de photos que vous exposez donc jusqu'au 1er avril, vous avez décidé de ne montrer que la nature et pas l'homme,
ouais.
Sauf vous.
Non.
Bah, si,
une
y a
photo,
une ombre.
Il y a mon ombre.
Ouais.
C'est pas un selfie. Hein. Non.
Ça va sinon le.
Non, c'est quand même beaucoup des photos sur des paysages.
Ouais. Ou alors une ombre au loin, une personne qui passe avec un parasol ou un parapluie.
Oui, il y a quelques personnes de loin.
C'est ça.
Voilà.
Mais parce qu'il faut quand même une présence humaine.
Oui,
parce
c'est-à-dire que
vous auriez pu aller au bout du truc.
C'était troublant pour moi de choisir ces photos. C'est que ce soit les films ou que ce soit les photos que je fais, en général, c'est sur des gens. C'est vraiment sur des portraits, des gens. Il y a une espèce de réflexion sur la figure humaine, sur l'activité humaine. Là, c'était intéressant de se dire, voilà, c'est aussi sur l'activité humaine, mais il n'y a personne dans le cadre, donc en tout cas très peu.
Ce qui est le plus dur dans une photo, c'est justement l'angle que l'on prend, le cadre, c'est la technique de la lumière, du contraste, du flou que l'on peut, la profondeur de champ, c'est-à-dire le flou que l'on peut avoir tout autour du cœur de la photo que l'on laisse net.
Ben justement, ce qui est intéressant dans la photographie, c'est que d'une part, enfin, c'est vraiment le mariage du temps et de l'espace. On fait une composition et puis il faut choisir l'instant où quelque chose se passe, et ça peut être avec la lumière, avec le cadrage, avec l'interaction du mouvement dans un cadre. Il y a une photo qui est prise en voiture et je joue avec le flou du mouvement de la voiture. Donc ça peut être beaucoup de choses en fait qui fabriquent
une photo. Vous faites une photo en roulant votre photo.
Ça s'appelle un radar.
Non, mais nous, ça sera juste chaque fois un truc raté, quoi. C'est n'importe qui fait ça.
Parce qu'on a la sensation que la photographie, c'est simple. Et puis, avec l'avènement des smartphones et autres outils, tout le monde devient d'une certaine façon photographe de son quotidien. Oui. Voilà. Mais là, quand vous expliquez qu'il faut attendre le moment précis, c'est quand même une pratique qui nous est assez étrangère. Enfin, je parle pour moi.
Ouais, non, tu peux parler pour nous.
Non, je suis assez brillant.
Non, c'est vrai que le piège, c'est qu'avec les smartphones et tous les filtres, on peut croire devenir photographe d'un coup, parce que voilà, on peut arranger le coup.
Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec les smartphones, c'est comme le stylo. Tout le monde a un stylo, tout le monde n'est pas romancier. Là, aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo, tout le monde n'est pas photographe. Parce que il faut.
Alors, qu'est-ce qui fait un bon photographe?
C'est juste le fait d'avoir développé une façon de penser où on pense à l'articulation, effectivement, toutes ces choses-là, la lumière, le cadre.
Mais est-ce que c'est le moment où on appuie sur le bouton pour enclencher la photo?
C'est vrai que c'est décisif. Là.
C'est ça le bon photographe? C'est l'instant
ça
précis.
Ça peut être ça. Ça peut être apprendre à. Souvent, quand il y a des gens qui marchent, par exemple, choisir le moment où on va prendre la photo, c'est choisir le moment où il y a une concordance entre le mouvement de quelqu'un avec le paysage derrière.
Non, mais nous, si on fait ça, elles sont toutes floues, les photos des gens qui marchent.
Non, mais
c'est pas flou?
Bah, parce que ça fait des années que je prends des photos et que je réfléchis à ça.
Parce que moi, j'ai raté ces photos. Quoi?
Parkinson.
Non, mais arrête ces bêtises. Pourquoi, par exemple, vous réussissez à faire une photo de l'intérieur d'une maison avec une fenêtre? Et on voit l'extérieur avec une lumière normale, on voit l'intérieur avec une lumière normale, alors que nous, ça serait forcément tout noir.
Non, l'appareil joue.
C'est énervant ça.
Non, mais c'est vraiment le fait de l'avoir fait beaucoup, c'est vraiment une histoire de pratique. Je pense que c'est vraiment.
En fait,
comme,
il a un truc qui ne veut pas nous le dire.
Mais ouais. Non, mais c'est comme un sport. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très bon en tennis ou en football, c'est parce qu'il pratique tous les jours et qu'il va réfléchir tous les jours à ce que c'est un passement.
À rattraper un défaut.
À parfaire un geste.
Enfin, est-ce qu'il y a des photographes qui ont la grâce, c'est-à-dire qui appuient toujours au bon moment?
Oui, bien sûr.
C'est ouais. Microsecondes.
En plus,
moi,
franchement, je me sens pas un grand photographe. C'est-à-dire que j'ai tellement de respect pour la photographie que les gens comme Cartier-Bresson, qui sont les rois du choix de l'instant, ou
Nikos,
enfin,
elles sont belles.
Il y a vraiment beaucoup de photographes
qui sont que des portraits pour le compte.
Qui sont très doués. Je me sens pas photographe comme ces gens-là. Donc moi, c'est vrai que la photo, c'est vraiment toujours lié à un rapprochement par rapport au cinéma, et donc c'est quelque chose qui m'aide à préparer les films.
Alors justement, en quoi Nature humaine, cette exposition, je le rappelle, c'est à la Galerie Cinéma Anne-Dominique Toussaint dans le 3e arrondissement, qui est votre spot préféré, hein, puisque c'est là où vous aviez déjà fait votre première expo. En quoi cette expo n'est pas que un making-of de votre futur film?
Parce que justement, il y a une réflexion sur l'image fixe. C'est-à-dire que, en fait, très bizarrement, cette exposition n'a pas beaucoup de choses à voir avec le film. Le film est beaucoup une histoire d'être humain et de gens, une histoire de famille et de transmission.
Ouais, mais c'est le milieu viticole. Et là, il est très présent dans les photos.
Non, il est très présent dans les photos, mais le film, je vais pas dire ne ressemble pas, mais en tout cas, ce sont les mêmes décors. C'est la
même
région.
Donc, on va retrouver des scènes dans ces cadres.
Oui, il y a des choses très proches parce que, c'est vraiment un film sur la Bourgogne et ancré dans la Bourgogne. Et en fait, ces photos sont sur le décor, et le film est plus sur les gens qui habitent le décor.
Mais cette expo de photos de vous en train de conduire bourré en Bourgogne, ils ont pris ça comment, le ministère de la Santé? Parce que c'est assez spécial quand même, Cédric. C'est un angle.
Toutes les photos de tous les radars de la Nationale.
En série.
Le film se déroule sur un an. Vous êtes parti de Vendange pour les Vendanges de l'année suivante.
Oui.
Vous avez suivi ça pendant un an. Ces photos suivent également ces quatre saisons?
Oui, complètement. Ce sont des photos prises aux quatre saisons. Et c'était l'intérêt de ce film, c'était d'écrire avec le temps. C'était de se dire, voilà, tout ce décor-là, il change tout le temps. Et donc, il y a l'été, le printemps, l'automne. Dans l'hiver, il y a plein de nuances dans l'hiver, parce qu'il y a avec neige, sans neige, il y a des couleurs qui sont très différentes. Soit c'est très monochrome, soit il y a des couleurs qui ressortent. Dans le printemps, forcément, Il y a l'époque des fleurs aux arbres qui est très courte. Et puis ensuite l'époque où les feuilles grandissent dans les vignes. Donc tout ça fabrique plein de facettes.
Et comment t'aurais fait les vendanges sans la présence de l'homme? C'est fou.
Justement dans le film c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est beaucoup des histoires humaines et d'associations de gens entre eux.
Cédric Lapiche, donc la série de ces photos Nature Humaine est exposée jusqu'au 1er avril. Après, je ne sais pas si ça sera une expo itinérante ou pas.
Parce que ça va aller en Bourgogne, donc c'est
on est vaut mieux. Oui.
Vous êtes à Bordeaux, vous allez pas cartonner.
Leïla, lorsqu'on vous annonçait la venue de Cédric Lapiche, vos oreilles ont sifflé.
Et oui, Cédric Lapiche, et quand je pense à vous, je pense à un film qui a marqué une génération et qui continue à compter.
Il y avait la liberté, la douceur de vivre, c'était vraiment le bon temps.
On virait des cafés, on n'a jamais un rond, on sèche les trois quarts des cours, on n'aura jamais le bac.
On était calme, ordonné, réfléchi. C'était autre chose qu'aujourd'hui.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Voilà le péril jeune qui a lancé la carrière d'acteurs assez incroyables comme Romain Duris, comme Vincent Elbaz, Hélène de Fougerolles, enfin toute une génération. Est-ce que en les choisissant à ce moment-là, vous sentiez qu'il y avait quelque chose en devenir de fort chez eux, ou alors c'est vraiment du pif?
C'est toujours de l'intuition en fait. Ouais. Quand on fait des films, on ne sait pas exactement si le sujet du film va plaire, si les acteurs qu'on choisit vont plaire, ce que tout ça va devenir. Donc sur Le Péril Jeune, comme en plus c'était mon deuxième film, il y avait une innocence totale. Et on a tourné très vite, on a tourné en 25 jours, donc 5 semaines de 5 jours.
Et parce que c'était pour la télé au début.
C'était pour la télé, c'était pour Arte. C'était le début d'Arte.
Donc il y avait un rythme de prod plus télé que cinéma. Vous aviez moins le temps.
Et d'ailleurs, le film a été projeté il y a 2 jours à la Cinémathèque, parce qu'il y a eu un hommage à Pierre Chevalier, qui était le producteur, celui qui a fait la série sur Arte. Et ça a vraiment déclenché une façon de faire à l'époque de faire ces séries télé qui étaient faites un peu différemment.
Et ça vous a associé aussi une forme de fidélité avec Romain Duris, qui revient régulièrement dans vos films. Donc c'était aussi l'occasion de faire des rencontres et de rencontrer des artistes avec qui vous avez travaillé longtemps.
Oui, complètement. Et ça, c'est vrai que la rencontre avec Romain Duris, ça aussi, c'était complètement inconscient et innocent. Et puis on a fait 7 films ensemble, donc c'était une rencontre forte.
Alors justement,
il n'est pas dans Ce qui nous lie.
Non, absolument.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il est dans l'expo photo, mais il est caché.
Il aime que le Bordeaux. Bourgogne, moi j'y vais pas.
La Bourgogne, c'est pas possible. Alors justement, il a joué sous votre direction, notamment dans la trilogie L'Auberge Espagnole, Les Poupées Russes et Casse-tête Chinois.
Tout a commencé là.
Je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste.
Hablas Espagnol? Tu connais l'Espagne?
Ouais, je connais un peu Ibiza.
Je suis triste que tu partes.
C'est à partir de là que j'ai décidé de partir un an en Espagne.
Et vous parlez espagnol?
Hablas espagnol? Alors pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire.
I'm Italian, German, Danish, English, espagnol.
Sure, cool. J'ai tout de suite adoré cet endroit.
Xavier n'est pas la fac?
No, I get it, la fac.
I'm going to fuck.
Ça reste une bonne vanne, quand même.
Ouais,
I'm going to fuck.
Je voulais la garder jusqu'au bout, voilà, pour ça. Et alors, ce qui m'étonne aussi beaucoup, c'est que vous êtes issu d'une génération post-nouvelle vague, post-nouveau roman, où on détruit absolument toute notion de narration, où on exècre même la narration d'une certaine façon. Et là, vous vous lancez dans une trilogie avec une narration tenue du début à la fin, qui est un genre qui ne fléchit pas. Qu'est-ce que ça vous fait, cette sensation-là, d'être quasiment à contre-courant, ce que je trouve assez génial?
Lui, moi.
ça a longtemps été difficile.
Vous avez peur qu'on ne comprenne pas vos films?
Non, justement, pourquoi ça a été difficile de faire juste le pari de la linéarité qui n'est pas en soi, contre-courant de la génération?
Comme vous dites, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à exister comme jeune réalisateur dans la fin des années 80, et c'est vrai que c'était l'époque où la déconstruction de la narration, le récit, on cassait le récit, etc. Et c'est vrai que avec pas mal de gens qui ont fait des courts-métrages en même temps que moi, on est né dans le début des années 90, on avait envie de revenir à la narration. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, c'était difficile d'affirmer quelque chose parce que c'était soit considéré comme classique ou pompier. Et le fait qu'on affirme en disant, voilà, il y a une modernité là-dedans et on essaye de raconter des histoires et ça paraissait un peu ringard. Ça a mis du temps avant d'être reconnu, je dirais. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on est dans l'époque des séries télé. Donc oui. La narration, on a vraiment...
dont vous faites partie avec 10%. Vous
absolument, avez mis en place. Ouais. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir qu'on a besoin de s'identifier au personnage, d'être dans la linéarité d'un récit. Et on l'est de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a un succès en ce moment des séries télé qui, à mon avis, est pas prêt de s'arrêter et qui, du coup, remet au goût du jour le scénariste, le fait de rentrer, oui, dans de la linéarité, quoi.
Vous avez eu du nez finalement, en étant à contre-courant à un certain moment de votre carrière. En fait.
Encore une fois, on fait les choses intuitivement. Ouais. Donc, je sais pas si c'est avoir du nez, mais c'est le fait que moi j'avais envie de ce que je disais tout à l'heure, écrire avec le temps. C'est-à-dire que quand j'ai fait la trilogie, il y a eu d'abord l'Auberge espagnole, j'avais pas pensé faire de suite, puis il y a eu une suite Les Poupées Russes, puis il y a eu un troisième.
Donc c'était pas une trilogie dès le départ,
ça s'est fait comme ça de façon intuitive, mais c'est vrai que ça ressemble à la logique d'une série télé, sauf que ça s'est fait sur 13 ans.
Et à quand le quatrième volet? Parce ouais. que, puisqu'on est-ce dans cette notion de linéarité, alors j'imagine qu'il faut attendre quelques années pour laisser les personnages grandir, pour laisser la vie avancer, pour écrire avec elle.
Oui, non, j'avais dit déjà pour la Castel Chinois qu'il fallait laisser passer 10 ans et on a laissé passer 10 ans pour faire le troisième volet. Et donc là, faut laisser le temps se faire. Je sais pas du tout s'il y aura un quatrième.
Mais ça va finir à la maison de retraite espagnole, ça.
Attends, il y a encore un peu de marge.
Dix ans par 10 ans, ça
voilà
va vite.
Voilà un bon titre.
ça va super vite.
L'esprit espagnol.
Est-ce que vous pensez que le succès des séries télé auxquelles vous contribuez encore une fois est un juste équilibre avec le monde du cinéma? Ça peut, à un moyen terme, faire du mal au cinéma? Ça a changé l'écriture, justement,
de quoi, les séries télé?
Oui, le succès des séries télé.
Non,
est-ce qu'il y a une forme d'écriture qui va maintenant devenir la forme utilisée pour la télé, et donc le cinéma va devoir trouver une nouvelle forme et raconter.
Il y a clairement une attaque au cinéma, disons. C'est vrai que moi je trouve que le cinéma américain les séries télé américaines en ce moment sont plus intéressantes que le cinéma américain.
Oui, mais les séries télé américaines marchent moins en France que les séries françaises. Les séries françaises ont plus de succès que les séries américaines.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Ça n'empêche pas que les séries américaines sont de très très grande qualité.
Laquelle, par exemple ? Ça dépend sur quel format on les regarde aussi. Si c'est à la télévision, oui. Mais si sur Netflix ou sur d'autres plateformes, c'est différent.
Oui, c'est le je parlais en masse.
Oui, d'accord.
La masse, le succès public. Oui. Vous, quelle série américaine est une...
Moi, disons que j'ai...
Votre référence
J'ai rencontré ce phénomène des séries américaines avec Six Feet Under, puis avec The Wire, puis enfin Les Sopranos. Il y a eu toute une série comme ça de séries qui.
Il faut qu'il y ait un peu des morts.
C'est-à-dire qu'il y a.
The Wire, il n'y en a pas tant que ça. Hein.
Non, mais Six Feet Under, il y a que ça.
Ouais, Six Feet Under, il y en a par épisode. Ouais. Mais non, c'est vrai que il y a eu plein de séries. Puis après, moi, il y a des séries sans morts. Il y a Extras, par exemple, qui est une série anglaise.
Ricky
Gervais, qui est extraordinaire. Donc il y a eu après, il y a eu plein de choses qui étaient soit sur la comédie, soit sur des trucs plus dramatiques.
Et alors justement, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Frédéric Sigrist, vous les consommez comment? Est-ce que vous attendez que la série soit sorte en intégrale et vous faites des soirées pizza série à Donf? Ou est-ce que vous êtes au contraire un accro en attendant chaque fois que le nouvel épisode sorte pour vite vous mettre sur internet et le regarder?
Moi j'ai toujours regardé en décalé, donc c'était jamais à la télévision finalement. Donc ça a été soit en DVD, soit parce que des copains me le passaient. Donc c'est
Et sur un petit écran ou sur un grand écran?
Ça a été les deux.
Photographe et cinéaste, il y a un moment où j'imagine que la qualité d'image compte.
Ouais, bien sûr, mais justement dans le truc des séries, c'est que finalement c'est pas la qualité du grand écran qui compte. C'est vrai que c'est la qualité plutôt de la linéarité, de la narration, le fait de suivre un personnage. Il y a ça dans le foot, et c'est vrai qu'il y a la notion de série télé. Il y a une notion de feuilleton, c'est-à-dire qu'on s'attache aux personnages, et à partir du moment où on les connaît, c'est exactement comme les personnages.
C'est
vrai que sur Paris Toulouse, Paris Toulouse, il y a une linéarité absolument de la narration.
Il y a un suspense parce qu'on se dit qu'il y a un truc qui va se passer.
Donc vous êtes incapable de voir un match de foot différé?
Non, je pourrais le faire dans certains cas quand je peux pas et que ouais non je l'ai fait deux trois fois.
En essayant de demander à des potes de pas vous envoyer
résultat. Surtout pas me parler. Ouais.
C'est
ouais.
Ça. L'expo photo s'appelle Nature humaine. Elle est liée au tournage du film Ce qui nous lie. Ce film, c'est un film avec Pio Marmaille et Anna Girardot. La politesse aurait voulu d'ailleurs que je commence par Anna Girardot et Pio Marmaille. Ça sortira le 14 juin prochain. L'histoire d'une fratrie retrouvée dans les terres de l'enfance en Bourgogne et justement en amont de ce tournage, Cédric Lapiche avec trois différents appareils, mais tous numériques, à réaliser ces photos. Il y en a quoi, une vingtaine plus?
Non, il y en a une quarantaine.
Quarantaine, ouais. D'accord. J'ai vu que la moitié, alors. Le froid que j'ai jeté.
Mais moi, j'aimerais bien voir aussi une prochaine série de photos sur l'urbanisme, parce que je sais que
vous êtes
assez attentif à ça, que vous en parlez souvent dans les interviews.
Ah, il était même fou de rage que la tour, je ne sais plus comment elle s'appelait, que Paris ait refusé de voter la construction de la grande
tour triangle.
Oui, tour triangle, ça. Absolument.
C'était fou de rage que ça passe à côté.
Oui,
qu'on passe à côté
parce
de ça.
Que
on prend plus de risques dans l'architecture.
Oui, c'est-à-dire que pour moi, le dynamisme d'un pays ou d'une ville vient sur le fait d'accepter la modernité. Je trouve qu'en France, on a du mal à accepter la modernité.
Ah bah aujourd'hui, il y aura un Gustave Eiffel qui débarque en disant « J'ai l'idée de faire une tour ».
Absolument.
Il se fait jeter.
Ouais complètement. Ouais. Ouais. Et c'était le cas à Beaubourg, quand on a créé Beaubourg. Il a fallu 20 ans pour accepter Beaubourg en tant que...
Ou les colonnes de Buren.
Que un bâtiment architectural a réussi. Et c'est juste qu'on pourrait réaliser plus vite que c'est intéressant de faire ce genre de bâtiment. Donc
Mais pourquoi tout le monde trouve toujours moche même la Tour Eiffel à l'époque a failli être démontée.
C'est en France où on trouve moche la modernité, parce que vous allez au Japon, vous allez à Dubaï, vous allez à New York, une chose neuve n'est pas forcément moche. Mm-hmm. Donc c'est vrai que nous on n'est pas habitué à ce que la modernité. Le problème, je pense que il y a eu tellement de tours moches dans les années 70 qu'on se dit moderne égale moche, mais c'est pas vrai. Moderne, ça peut être très très beau.
Cédric Lapiche est notre invité jusqu'à midi et demi. Voici l'humeur de Frédéric Sigrist. Après PSG Toulouse dimanche,
voilà,
Frédéric mardi.
Ouais, exactement, c'est vrai qu'on reste raccord. Alors histoire de concerner tout le monde autour de la table, je voulais vous parler d'emploi fictif. Voilà. Alors, parce qu'en ce moment, les éditorialistes, qui sont quand même l'apex des emplois fictifs, s'en donnent à cœur joie avec la présidentielle. On analyse les petites phrases, les sondages, même si on tient à préciser que la dictature des petites phrases est une honte pour la politique et que les sondages ne sont qu'une photographie d'un instant T qui ne correspondent que très rarement aux résultats finaux dans les urnes.
Résultats
finaux. c'est vrai. En même temps, ils en parlent pendant des heures, mais après, ils t'expliquent que ça sert à rien. Donc franchement, Jean-Michel Apathy, Natacha Polony, Dominique Seux, s'ils étaient moins drôles, ils pourraient largement remplacer Daniel Morin. Hein. Et pourtant, grâce à eux, on est dans une putain de série pleine de rebondissements. François Fillon, l'homme qui a coûté plus cher à l'État que tous les réfugiés syriens réunis. Obtiendra-t-il l'immunité présidentielle pour échapper à la justice? Ça va être dur ce matin.
Dimanche, mardi, oui. Prochain.
Le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, a-t-il la condition physique d'un retraité en surcharge pondérale? Au moindre effort, il s'essouffle? Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon arriveront-ils à faire taire leurs différences afin de perdre ensemble la présidentielle de 2017? Mais il y a une question que personne ne se pose, ou plutôt que l'on évite de se poser en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on fait si Marine Le Pen devient présidente?
Champagne!
Ben oui! Parce que les sondages ont beau ne pas être fiables, depuis maintenant plus d'un an, elle arrive en tête des intentions de vote, hein. Tout institut confondu.
Au premier tour.
Oui, au premier tour, mais quand même. Et mine de rien, ça commence à pas sentir bon, cette histoire, hein. Par exemple, sur France Inter, je nous sens pas hyper prêt à une présidence Le Pen. Hein. Non mais c'est vrai, ici on en a encore à trouver Manuel Valls trop à droite, donc autant te dire que Marine Le Pen présidente, c'est le sixième niveau de l'enfer pour un auditeur d'Inter. Hein. Pierre-Emmanuel Barré, le pauvre, il a déjà l'impression de subir une coloscopie à chaque fois qu'Hollande ouvre la bouche depuis 5 ans. J'ose même pas imaginer la circonférence de son anus à la fin d'un quinquennat de Marine Le Pen. Hein. Non mais à mon avis, à la fin de son mandat, on peut organiser le festival des vieilles charrues dans son fondement. Alors étant partisan de l'adage « si vous êtes préparé, vous ne craindrez pas », je me propose de vous donner des trucs et astuces pour vous préparer à l'élection de Marine Le Pen.
Mon Dieu.
Dans un premier temps, le dimanche du deuxième tour, après avoir fait votre devoir électoral, ou pas,
hein, car je rappelle que l'abstention n'est pas un délit. Hein, si dans une boutique de fringues, il n'y a pas votre taille, vous n'êtes pas obligé de repartir avec des vêtements qui vous vont pas. Bon, bah, la présidentielle, c'est pareil. Ah, c'est bien ça. Passez un dimanche entouré par les gens que vous aimez autour d'un beau gueuleton, un bon verre de vin de Bourgogne, par exemple. Évitez toute situation susceptible de vous crisper. Et le soir, si le visage de Marine apparaît sur l'écran de votre téléviseur, je vous déconseille fortement de sortir en criant « Au fascisme !» dans la rue. Déjà, ça n'arrangera rien, mais ensuite, une victoire de Marine Le Pen risque de faire sortir dehors une bonne partie de ses électeurs de base, qui n'ont pas pour réputation d'être des ceintures noires de rhétorique, mais qui par contre ont des grosses rangers qui font très mal quand on se les prend dans les côtes. Alors, à moins de faire 1m90, 110 kg et de maîtriser le Krav Maga et la natation, spéciale dédicace à Brahim Bouaram, je vous recommande d'aller au lit. Au pire, de colère, vous pouvez détruire votre téléviseur. De toute façon, je vous déconseille son utilisation durant les 5 années à venir. Évitez aussi les formules à l'emporte-pièce, à la Yannick Noah. Oh, j'ai le pas, je me casse. Vous iriez où? Dans les États-Unis de Donald Trump? L'Angleterre de Theresa May? La Russie de Vladimir Poutine? C'est aussi ça, la mondialisation. Des Ikea, des McDonald's et des xénophobes un peu partout. Là, je m'adresse à nos auditeurs musulmans. Je ne vais pas vous mentir, les 5 années à venir risquent d'être un petit peu tendues. Si vous songiez à faire un petit break dans vos pratiques religieuses histoire de voir autre chose, c'est le moment ou jamais. Hein. Le lendemain de l'élection présidentielle, je n'aurais que trop vous recommander d'acheter une bonne bouteille de vin. Je vous recommande pas de la boire, hein, mais ayez-la toujours sous le bras, histoire de donner le change. Les gens vont vous regarder, oh, c'est bon, c'est un musulman intégré ça. Pour ce qui est du voile, mesdames, n'ayez crainte, il serait assez peu respectueux de vous demander de l'enlever. Par contre, si on vous demande pourquoi vous le portez, dites que la chimio avance bien et que votre cancer est entré en phase de rémission. Politiquement, inutile de se réconforter en se disant que le FN ne pourra de toute façon pas avoir de majorité parlementaire pour gouverner. Car je mettrai ma main au feu qu'il y a parmi les amis actuels de François Fillon, au sein des Républicains, parmi la Manif pour tous, tout un tas d'élus à qui il faudra moins de 2 minutes pour se trouver des points de convergence avec le Front National. Spéciale dédicace à Laurent Wauquiez. Mais au fond, le FN au pouvoir, c'est peut-être vraiment ce que les Français appellent de leur vœu. Dans ce cas, j'invite les autres candidats à ne rien changer. Continuez comme ça, les gars. Battez-vous entre vous. Ayez des égos de la taille d'un immeuble. Marine vous remercie. Hein, Le Pen au pouvoir, Jean-Marie l'a rêvé, mais c'est vous qui l'avez fait.
Merci,
Nagui, la bande originale.
À ce propos, nous recevrons demain Lucas Bellevaux et Guillaume Wyss pour le film Chez nous, que vous avez peut-être déjà vu, vous, en avant-première ou pas?
Non.
Vous regardez beaucoup le travail de vos camarades?
Beaucoup, oui. Non, c'est important de savoir ce que font les collègues, ouais.
Et il y a des moments où on se dit, j'aurais aimé faire ça, ou il m'a piqué l'idée, ou...
Non, il m'a piqué l'idée, non. Enfin, justement, quand on a envie de...
Où ça a été fait, et je peux pas retourner sur ce sujet-là.
Voilà, c'est plutôt ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant avec les collègues, c'est quand ils font des choses que soit on ne sait pas faire soi-même, soit on est impressionné sur le fait de pas avoir eu l'idée. Mais c'est ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que chacun a un regard différent, et c'est ça qui est beau. C'est que moi, les gens que j'aime bien, je ne peux pas faire leur cinéma, ouais. Donc...
Et à quel moment une idée, lorsqu'on a une idée d'un film, on ose en parler autour de soi, en n'ayant pas trop peur d'ailleurs que cette idée finalement soit récupérée? Parce que le cinéma, c'est vraiment un sport collectif, pour reprendre l'image que vous employez tout à l'heure. On est obligé de partager, on est obligé de faire appel à une équipe, et donc le plus possible de se raconter, voire de s'étaler, d'aller convaincre des financiers, des comédiens, toute une équipe. Et l'idée n'est plus vraiment la sienne quand on l'étale.
Oui, en même temps, vous savez, c'est arrivé à Tarantino récemment, on lui a volé un scénario, il s'est dit je vais pas faire le film parce qu'on m'a volé le scénario. Personne peut faire un film de Tarantino, c'est-à-dire que vous volez un scénario de Tarantino, ça va rien donner. Donc il y a ça, il y a le fait qu'on finalement on peut pas se faire voler.
Donc personne ne peut faire un film de Clapiche.
J'espère.
Il y a des réalisateurs. Même Tarantino. Il y a des réalisateurs qui ont une sale réputation en France. C'est Wiki.
Oui. Oui, mais je pense que justement vous les connaissez parce qu'ils ont une sale réputation. Ouais.
C'est pour ça qu'ils viennent pas.
On avait dit qu'on parlait pas de Luc Besson.
La bande.
Non, il a une bonne réputation.
Ah, il a eu plein de procès pour les scénarios.
Ah, pour les idées.
Pour les idées originales de films.
Quand tu viendras ici, tu viendras aussi.
Voilà.
Voici la bande originale de Cédric Clapiche, parce que le cinéma, c'est la lumière, c'est le cadre, c'est la photo, c'est les comédiens, c'est les histoires, mais c'est aussi la bande son. Et notamment dans les années 70, vous écoutiez. Le bon, la brute et le truand. C'est vrai que dès qu'on entend cette musique, on a des images. Ouais. Chacun les siennes, peut-être, mais on est dans une ambiance. Quoi.
Ouais. En fait, j'ai été écouter Ennio Morricone au Palais des Congrès il y a quelques mois, et je me suis rendu compte qu'en fait, sa musique a baigné mon enfance. Et que ça rassemble.
C'était la BO de votre adolescence et votre enfance.
Non, je me suis rendu compte, on était au Palais des Congrès, il y avait je crois 2000 personnes, la plupart des gens pleuraient en écoutant ce truc-là. C'est-à-dire que.
Et quoi, c'était un symphonique?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait 100 musiciens, 100 choristes, et donc cette femme qui fait de l'opéra. Et il y a un truc dans le mélange des musiciens classiques avec des guitares électriques, des orgues électroniques, etc. Et cette voix de femme, quelque chose qui, quels que soient les âges, même si on connaissait le film, pas le film, il y a quelque chose qui est très très important, disons.
Tout de suite,
très...
tu te revois avec ton petit chapeau en carton, ton faux chapeau de cow-boy, non, c'est vrai.
Fais attention, tout ce que tu révèles sur ton enfance passe à l'antenne.
J'ai pas parlé de votre cagoule, Nagui. Parlez de mon petit chapeau en carton.
Et pourtant, c'est pas spécialement les westerns qui ont marqué votre enfance.
Non, mais c'est vrai que tous les films avec Belmondo, enfin Ennio Morricone, il est à l'origine de beaucoup de musique de films avec des comédies, des westerns, des choses très très différentes. Et en fait, il synthétise
beaucoup. C'est pas Miloš Forman le premier film qui est la première révélation cinématographique pour vous?
Miloš Forman, quand j'ai vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était vraiment un film important. Oui, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et c'est un film qui m'a marqué parce que peut-être c'est ce film-là qui m'a donné envie de faire des films avec beaucoup de personnages, sur le fait de montrer une diversité d'individus et de voir comment ils interagissent entre eux.
Vous avez un rapport un peu monomaniaque, je crois, à partir du moment où vous découvrez un film et un réalisateur, vous tirez le fil et vous allez voir tous les films à peu près que le réalisateur a fait. Vous parliez de...
Je pense que ça c'est vrai de tous les réalisateurs. C'est d'ailleurs pour ça, avec quelques personnes, qu'on a fondé la Cinéthèque, le site lacinéthèque.com, parce qu'on peut voir des vieux films, des films d'avant l'an 2000. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait voir des films classiques. Et donc là, on s'est dit, voilà, si on aime Kurosawa, ou si on aime Hitchcock, ou si on aime Godard, on peut effectivement voir plein de films de ces gens-là, qui sont des gens importants, exactement comme dans la littérature. Balzac, Flaubert, Rabelais sont des gens importants.
Il y a aussi la même mécanique que pour de la musique ou pour les livres. Si vous avez aimé tel réalisateur, vous aimerez tel autre réalisateur. C'est
absolument
la prescription.
C'est la logique actuelle sur les, ce qu'on appelle les playlists. Il y a ça sur les sites de musique. Et où effectivement, s'il y a un groupe que vous aimez, vous regardez quelle musique ce groupe a aimé. Il y a de fortes chances que ça vous plaise aussi. Ouais.
Dans les années 85, pour être précis. Cédric Lapiche, la coiffure des Jackson 5, la chaîne en or qui pend, avec le signe dollar. On vous voit bien avec un pantalon moulant en train de danser là-dessus. Rapper's Delight de Sugar Hill Gang.
Qui fantasme de
vous êtes
je suis.
Tout le monde a entendu, Nagui.
Je vais faire le chapeau de Daniel. Hein.
Merci. Oh, Cédric Lapiche avec des cheveux, non? Ça t'intéresse
pas? C'était pas tant
t'es
les cheveux.
T'es trop fan, toi. T'es trop fan.
J'avais les cheveux.
Vous avez eu des cheveux un jour?
Oui.
Mais c'est valable pour beaucoup de monde. Hein.
C'est ça sert à rien, cette conversation.
C'est vrai que avec vous trois, il y a une jolie photo à faire. Donc, vous êtes à New York au début des années 80. Vous avez en fait deux fois tenté de rentrer à la FEMIS, enfin ce qui à l'époque s'appelait l'IDEC, sans jamais être pris, ce qui n'est pas le...
C'est mon fait de gloire.
Ouais. Mais oui, non, mais ce que j'allais dire, c'est même...
un gage de qualité, non?
C'est triste. Bah oui. C'est triste pour la FEMIS de se dire deux fois un bonhomme comme Cédric Lapiche.
C'est logique.
Non, mais justement, c'est intéressant maintenant. Moi, j'ai beaucoup souffert à l'époque, parce que quand on a 20 ans et on se dit, voilà, je veux faire du cinéma, il y a une école qui forme à être réalisateur et puis on peut pas rentrer dans cette école. C'est désastreux et on se dit, voilà, ma vie s'arrête là. Je trouve ça intéressant de voir que ma vie s'est pas arrêtée là, que je suis devenu réalisateur.
Malgré tout.
Et je trouve que ça raconte le fait qu'il faut pas perdre espoir, disons.
Vous pensez que si vous aviez réussi la FEMIS, vous auriez fait plus d'entrées?
Je sais pas, c'est très délicat cette question de savoir quel film je ferais si j'avais fait la FEMIS. Je pense qu'il serait différent, je pense que j'ai beaucoup appris. C'est pas tellement l'école de cinéma à New York qui m'a appris à faire du cinéma différemment, mais c'est le fait d'avoir passé 2 ans à l'étranger, c'est ce que je raconte dans l'Auberge espagnole. C'est que lui, Xavier, il va apprendre l'économie, il apprend tout le reste, et très peu l'économie, c'est-à-dire qu'il apprend la vie en, en voyageant.
Le mérite, en tout cas, de ne pas, le mérite de la féministe de vous avoir refusé, c'est que ça vous a poussé à partir aux États-Unis et ça a bouleversé votre vie au-delà de ce que vous avez écouté comme musique, fréquenté aussi comme personne. Et c'est comme photographe que vous avez trouvé du boulot ou.
Alors c'est comme électricien. Quand je suis revenu de l'école, en fait, j'arrivais pas à trouver des.
Vous dites électricien, pas électro.
Électro, sur un plateau on dit électro, ouais, machine ça, électro. J'arrivais pas à être assistant réalisateur et donc comme je savais un peu utiliser les éclairages et j'avais déjà un peu fait ça sur des courts-métrages, donc j'ai eu un poste d'électro.
Sur Mauvais Sang de Léos Carax, quand même.
Entre autres, ouais. Mais...
pas mal comme.
Non,
puis il y a eu quelques cours intéressants. Quelques courts-métrages aux États-Unis parce que il a bien fallu travailler aussi aux États-Unis un peu.
Ouais, c'est vrai, ouais. Eh ben, j'étais chef opérateur sur des courts-métrages aux États-Unis. Donc, j'ai fait des films d'animation, j'ai fait des films de danseurs. Et donc, voilà, j'ai fait pas mal ça.
Et puis après, vous avez fait rien du tout.
Et ensuite, j'ai fait rien du tout.
J'ai coupé la musique.
En 92, Lerita Mitsuko. Donc rien du tout, vous avez fait tourner, c'est votre premier long métrage, mais il y a un S à rien, qui est important. Il y a Karine Viard, Antoine Chappé, Odette Laure, Zinedine Soualem, Fabrice Lucchini. C'est un film qui a été pour vous une carte de visite auprès de professionnels, auprès de la presse et d'autres comédiens.
Oui, bien sûr, parce que j'avais déjà fait un court-métrage qui avait gagné des prix dans les festivals, donc je m'étais fait un peu remarquer, mais c'est vrai que c'est en faisant rien du tout où il y a une sorte de reconnaissance. Puis après, c'est avec les autres films, avec Le Péril Jeune, avec Chacun cherche son chat, qui a...
Oui, ça et puis la rencontre avec Bakri et Jaoui qui a dû aussi jouer, parce que c'est eux qui ont été demandeurs, en fait.
Oui, en fait, justement, dans Rien du tout, il y avait Jean-Pierre Darroussin, et qui m'a dit à la fin de Rien du tout, il y a Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui qui aimeraient bien que tu viennes voir leur pièce Un air de famille. Et je suis venu voir la pièce, puis en fait à la fin de la pièce ils m'ont demandé si je voulais l'adapter. Donc ça s'est fait assez rapidement parce que j'ai dit oui tout de suite.
Et... du tac au tac.
Je leur ai dit je vous réponds demain. Et donc le lendemain j'ai dit oui.
Justement. C'était par envie ou vous avez peur de Bacri?
Ah non, moi j'étais très très fan de Bacri en allant voir la pièce et non, j'étais impressionné qu'il me demande parce que moi j'étais vraiment un jeune réalisateur donc j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus expérimenté que moi et
qu'ils auraient peut-être pu le faire tout seul, c'est ça?
Alors
en fait
oui, c'est ce qui s'est passé après. Agnès Jaoui est devenue réalisatrice sur le goût des autres, c'était directement.
Vous l'avez mal pris?
Non, on avait parlé de ce film, il m'avait proposé de le faire et puis finalement en écrivant ils se sont rendus compte qu'elle avait envie de réaliser et elle a bien fait.
Oui, mais d'autant que vous avez même reçu un César, si ma mémoire est bonne.
Pour le scénario.
Ouais, c'est ça.
Le scénario écrit par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Donc j'estime que je n'ai pas gagné de César.
Et donc physiquement, l'objet, vous l'avez donné à Bacri et Jaoui ou vous l'avez gardé?
Ils l'ont, je ne l'ai pas. Ouais.
Quelle élégance. En 2007. Ça, c'est la BO du film Paris.
Ouais.
Justement, Paris, donc le film que vous avez tourné avec Juliette Binoche, Romain Duris, évidemment, et Fabrice Lucchini. Comment vous choisissez vos BO? Quelle place donnez-vous à la musique dans vos films?
Alors, j'ai choisi Loïc Duris. Ouais. C'est-à-dire que ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille avec Loïc Duris, qui maintenant travaille avec
En fait, vous ne choisissez plus, là, maintenant. Ouais.
Je ne choisis plus. C'est un travail collectif. Disons, on se parle beaucoup. Et puis, eux deux, donc ils ont un groupe qui s'appelle Cracked Unit et donc il y a Disco et Loïc qui fabriquent la musique et donc maintenant c'est une discussion avec eux sur quel type de musique, quand on fait Ce qui nous lie ou quand on fait Castelcino, on fait pas du tout le même genre de musique, mais il y a une base électro, je dirais, dans tout ce qu'ils font et j'adore travailler avec eux.
C'est une forme de binôme. Est-ce que c'est pareil avec les chefs-op?
Chef-op opérateur.
Oui, sauf que ça a changé beaucoup, pas tellement de mon choix, mais ils sont souvent pas libres, ces gens-là. Donc finalement, j'ai changé beaucoup de chef-op Parce que celui que je connaissais n'était pas disponible avant.
Ah bah celui que vous avez choisi va bien le prendre alors. nous avons demandé à Gilles Porte, qui est scénariste, réalisateur, directeur de la photo justement, photographe lui-même, membre de l'Association française des directeurs de la photo, de venir à ce micro. J'imagine que vous connaissez
l'un l'autre.
Vous n'avez jamais travaillé ensemble?
Non, on se connaît.
C'est peut-être pour ça que vous...
Et on se déteste.
Merci d'être venu, Gilles. Vous avez été assistant opérateur auprès de directeurs de la photo sur des films de Jacques Audiard, de Marcel Carné, de Raoul Ruiz, de Patrice Chéreau, de Costa Gavras, enfin bon, un nombre incalculable justement. Est-ce que c'est un métier qui est, j'allais dire dans l'ombre, sans faire de mauvais jeu de mots pour ceux qui s'occupent de la lumière, mais de stars quand même? Est-ce qu'il y a des chefs opérateurs qui sont recherchés par des réalisateurs et qui sont rares?
Vous posez la question à Cédric, mais oui.
Merci d'être venu, Gilles.
Non, mais bien sûr, ça existe. Mais je crois surtout qu'un réalisateur, c'est difficile de faire un film. C'est difficile de le monter financièrement. Donc, quand vous arrivez à le monter, vous avez envie de travailler avec les gens.
Les meilleurs.
Les meilleurs, en tout cas, les gens avec qui vous entendez. C'est-à-dire que les meilleurs, je ne sais pas ce que c'est que les meilleurs. Les meilleurs, je pense que pour un réalisateur, c'est en qui on a confiance. En qui on a. C'est un directeur photo comme un chef déco, comme un décorateur, comme un menteur, c'est quelqu'un qui
finissez tous vos mots. Ouais, je chef op, c'est chef opérateur.
Non mais Nagui a encore tout, il a même pas de nom de famille.
Je crois que vous avez rappelé tout à l'heure, il a été dit quelque chose d'important, c'est que le cinéma c'est quelque chose de collectif, comme le sport peut être collectif, comme une équipe de foot peut jouer collectif. Moi je suis plutôt Saint-Etienne que Paris Saint-Germain. Bien que j'ai apprécié le match.
Salut Christophe Galtier alors.
Voilà. Mais je crois que c'est quelque chose de collectif. Donc l'alchimie entre un réalisateur et un directeur photo, il y a des couples célèbres. Je pense à Bergman, Nygvis, je pense à Coutard, Godard, je pense à Alcan, Carné. Quand ça fonctionne, on aurait tort d'en changer.
Alors ça s'apprend comment? Parce que le travail de chef opérateur n'est pas uniquement de brancher des projecteurs et d'éclairer un plateau. Il y a un autre travail qui est... Comment l'expliquer à des profanes comme nous qui n'avons jamais éclairé aucun plateau, aucune scène?
Ils n'éclairons rien du tout.
On éclaire rien.
Je crois qu'il y a... Alors je partage par rapport à l'apprentissage, je partage avec Cédric le fait d'avoir été refusé à Fémis deux fois.
Donc il y a un profil du réalisateur talent qui...
Donc si vous êtes pris, inquiétez-vous.
Non, pas du tout. Non, mon assistant, par contre, fait la Fémis. Il est aujourd'hui directeur photo d'ailleurs. Et c'est un très bon directeur photo. Je crois que ça peut s'apprendre de différentes manières. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Carlo Varini, comme Patrick Bossier, comme des gens qui m'ont appris à appréhender un plateau.
Oui, mais c'est quoi le métier?
Je crois que...
Si vous deviez raconter à un enfant de 10 ans le métier de chef opérateur, comment le comprendre?
Déjà, chef opérateur ou directeur de la photographie, il y a le mot photographie. Oui. C'est-à-dire que le cinéma, c'est... un certain nombre de photos, en l'occurrence 24 au cinéma, 25 à la télévision, qui mis bout à bout, qui vous donne l'impression du mouvement. Donc
pas toutes les émissions, il y a des émissions à 24 images secondes.
Ouais, même à 16 images, mais vous avez l'impression d'un ralenti à 16 images. Mais non, je crois que comment ça prend la direction? Enfin, je sais pas, ça s'apprend en regardant.
C'est compliqué de répondre à votre question. Ouais.
Ça s'apprend.
Non, mais moi je me mets vraiment. Je suis un enfant de 10 ans. C'est quoi?
Allez 5.
Qu'est-ce que vous faites sur les pellicules?
Il y avait un enfant différent.
Non, moi, je sais pas.
C'est quoi ton métier, Gilles?
Mon métier, c'est d'essayer de comprendre ce que veut un réalisateur et d'essayer de faire l'image qu'il souhaite pour son film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi une belle image. Quand un réalisateur, si je rencontre un réalisateur qui me dit je voudrais une belle image, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a l'image d'un film. Prenons par exemple Une femme sous influence avec Gina Roland, d'un film de Cassavetes. Pour moi, c'est une belle image. C'est l'image qui colle à Une femme sous influence. C'est pour ça que l'image d'un film va avec la rencontre que vous faites avec le scénario d'abord.
Donc, il faut qu'il y ait une osmose, une compréhension totale entre le réalisateur et le directeur photo.
Il faut parler bien pour un enfant de 5 ans.
Il faut qu'il y ait une entente.
En tout cas,
je fais que lire les questions que tu m'as écrites.
En tout cas, je suis sûr que l'inverse, ça marche pas. Je suis sûr que l'inverse, si un directeur photo tire la couverture à lui, ou un chef d'écoute, je crois que on va pas dans le bon sens.
Est-ce qu'il y a des scènes qui sont plus faciles, entre guillemets, à éclairer que d'autres? Est-ce que on peut imaginer que, des scènes d'extérieur, quand il y a le soleil et les nuages?
Par exemple, dans les forêts de Sibérie de Safi Nebbou, qui est un film magnifique, vraiment, dont on avait parlé ici.
En admirant votre travail.
Et voilà, on admirait votre travail. Là, par exemple, un film comme celui-là. C'est compliqué de jouer avec le décor naturel, la lumière, les conditions météo aussi, j'imagine.
Oui, c'est compliqué, mais alors ça demande du temps. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est d'avoir du temps au cinéma. Alors, il y en a qui arrivent comme Terrence Malick, qui tourne pendant 9 mois. Je pense que
peut-être trop de temps, lui.
Je sais pas, quand il fait Les Moissons du Ciel, je trouve que le temps qu'il a, il l'utilise plutôt bien.
Pour celui-ci, oui.
Voilà, mais pour les forêts de Sibérie, il y a par exemple un c'est marrant parce que il y avait des questions qui étaient posées comme ça. On dit, il y avait une question qui était posée, c'est est-ce que vous trouvez que le directeur photo est assez reconnu? Moi, je trouve qu'il y a des postes dans le cinéma qui sont pas assez reconnus. Par exemple, le poste de premier assistant réalisateur est un poste qui, pour moi, n'est pas assez reconnu par rapport à la responsabilité qu'il a.
En l'occurrence, sauf pour les figurantes.
Ouais, c'est même pas lui qui s'en occupe. Mais pour les forêts de Sibérie, enfin, sa fille et moi devons beaucoup à Luna Mourard, qui était la première assistante réalisatrice, mm-hmm. qui a fait en sorte qu'on tourne à la bonne heure Les Aubes et les Crépuscules. Je crois que il y a une blague qu'on dit, je sais pas si vous la connaissez,
quelle
est la différence entre Dieu et un directeur photo? Ça marche aussi avec quelqu'un de la radio.
Allez-y.
C'est que Dieu ne se prend pas pour un directeur photo. Mais je crois que pour les forêts de Sibérie, si on n'avait pas tourné à l'heure, au bon moment, on n'aurait pas ramené l'image qu'on avait. Donc je crois qu'il faut garder une certaine humilité par rapport à ça.
Mais il y a quand même une vraie difficulté, paradoxalement, à tourner en lumière naturelle, de tourner à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut même presque plus de matériel lumière quand on est en extérieur pour rattraper les ombres du soleil ou les passages de quelques nuages qui vont changer.
Alors, vous n'êtes pas tributaire de votre technique.
De la météo, là, oui.
En l'occurrence, pour les forêts de Sibérie, je suis parti avec très peu de lumière. Mon plus gros projecteur, parce que Cédric connaît un peu la lumière, puisqu'il a été électricien, et c'était un 1800 watts. Et
c'est pas beaucoup, hein.
C'est pas beaucoup. Non, mais c'est pas beaucoup parce que je devais notamment, et je devais par exemple faire un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur parce qu'il y a une cabane dans les forêts de Sibérie.
C'est ça pour.
Donc c'était.
Il y a peu de prise en plus.
C'était assez compliqué. Mais je crois pas que ce soit une question de moyens. Je crois que c'est. Moins vous avez de temps, plus il vous faut le moyen, plus il vous faut de gens, plus vous avez de temps. En l'occurrence, sur les forêts de Sibérie, on n'avait pas 9 mois, mais on a eu quand même 2 mois et demi. Ce qui nous a permis de jongler un petit peu avec ça.
Est-ce qu'il y a des films qui peuvent être tournés sans aucune lumière?
Oui.
Merci.
aujourd'hui, on peut faire des films avec un iPhone, on peut faire des films sans lumière, on peut faire des films. Je crois que.
Sans son aussi.
Oui, on peut faire des films muets, on peut faire des films même qu'on essaye avec un écran noir de temps en temps. Mais oui, on peut faire un film sans lumière, mais pas sans lumière additionnelle.
Est-ce que c'est le meilleur passage pour devenir réalisateur, de passer, comme l'a fait Cédric Lapiche ou vous, par la photo, par la direction de la photo
et... Encore une fois, je vais botter en touche, mais Fritz Lang, il était architecte, Jacques Audiard était scénariste.
En fait, c'est plus rugby que foot, hein, j'ai l'impression.
Non, mais je crois qu'il n'y a pas... Enfin, encore une fois, le cinéma... On peut faire une école, on peut ne pas faire d'école. Je pense à des réalisateurs que j'aime beaucoup. Wim Wenders, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il est passé par la photo. Agnès Varda est passé par la photo aussi. On peut passer par la photo. Et en tout cas, directeur photo, c'est difficile de dissocier.
Et puisque vous parlez de Wim Wenders, là, c'est la question que je pose aux deux. Est-ce qu'un film en noir et blanc est plus difficile ou c'est du snobisme de vouloir faire quelque chose de classe en faisant le noir et blanc?
Non.
Pour la photo, il y a un snobisme du noir et blanc, en tout cas.
Oui, mais en même temps, c'est ce qu'on avait dit à La Haine, enfin, à Mathieu Kassovitz quand il a fait La Haine, mm-hmm. où je pense que, enfin, The Artist, c'est encore autre chose parce qu'il fallait que ce soit en noir et blanc. Mais, ce que disait Gilles est vrai, c'est que chaque film a une demande esthétique différente. Des fois, on veut ressembler à des choses, des fois, on veut ressembler à rien. Des fois, on a envie d'éclairage ou pas d'éclairage. C'est justement, le choix esthétique, il se fait au départ. Et ensuite, il y a un processus de collaboration avec un chef opérateur et un réalisateur qui va dans ce sens-là.
Il va y avoir les Césars qui vont arriver. Vous êtes en compétition?
Pour la musique, on n'a pas été nommé pour la photo ni pour le film.
Incroyable.
Eh oui.
Sans blaguer. Mm. D'accord. Et vous savez qui l'aura pour la photo?
Non, j'aurais. Je pensais à un film d'ailleurs qui est pas nommé. Je pensais à Danseuse. J'ai beaucoup aimé la photo de Danseuse,
ouais.
Mais il est pas nommé non plus. Donc je ne sais pas.
Il l'aura pas.
Merci Gilles d'avoir été notre invité. Daniel Morin,
oui,
qui est une lumière.
On voit
que la photo et le,
consommation,
et le cinéma et le sont deux arts indissociables. C'est capital, la photo dans un film. On peut pas dire le contraire ce matin. Chaque fois vous foutez. Dès que je dis du bien,
petit salaud,
vous foutez de moi.
Taisez-vous. Bonheur, chaleur et admiration. Voilà les mots qui résonnent à mes oreilles quand je vous entends, monsieur Guy. Ah, au nom de tous ceux qui avachis composent cette tablée navrante, je dis merci de nous rendre meilleurs et moins cons chaque matin. Pourtant, on sent bien qu'on est mardi et qu'hier soir, vous avez encore préféré boire de la tequila et consommer du hashish plutôt que de préparer l'émission. Nom de Dieu, couille morte, mais quand arrêterez-vous avec votre refrain aussi insupportable qu'un couplet de Patrick Juvet? La photo ni-ni-ni, la photo nanana, la beauté de l'image, blablabla. Voilà, merde, on est sur Inter, nom de Dieu. On aime les films simples, les films rudes, les films aux images âpres, aux images râpeuses, colorées de gris. On aime l'image qui, au diapason de l'histoire, coule ses couleurs de chagrin dans l'injustice sociale et la douleur du mal-être. On aime les images à la Ken Loach, les images à la Dardenne. On aime le grain Pôle emploi, la luminosité Prozac. Ici, peu nous chaud d'avoir une photographie léchée avec de chatoyantes couleurs, une pigmentation gourmande. On s'en fout, on aime le glauque, la couleur qui bave, la lumière chaotique. On veut de la misère du propos, qu'elle soit en adéquation avec la pauvreté du rendu de l'image. On veut du sens malheureux, servi par une invitation visuelle repoussante. Alors oui, forcément, on est loin du gros plan serré en 4K de vos documentaires animaliers, de vos pornos, qui parfois ne font qu'un, que vous appréciez tout particulièrement, monsieur Guy. Mais sachez, avec tout le respect que je ne vous accorderai jamais, que vous êtes dans le faux à vous pâmer devant la perfection d'une image et le grain impeccable d'une photo. Désolé, mais une fois encore, vous avez dit...
N'importe quoi. Ouais.
Merci,
la bande originale, Guy, sur France Inter.
Avec Cédric Cabiche, qui est notre invité jusqu'à midi et demi.
Les professionnels du gaz PG.
En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation.
30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation. Waouh ! Pas d'hésitation.
Alors, contactez votre professionnel du gaz PG.
Les professionnels du gaz PG.
L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Être malade, ça tombe toujours mal. Surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr.
L'assurance maladie.
Vendredi 3 mars, le pianiste Lucas Guenoujache et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Andrei Boreiko, nous offrent un programme entièrement russe.
À l'affiche, le crépitant 3e concerto pour piano de Prokofiev, la belle au bois dormant de Tchaïkovski et de Valentin Silverstroff, la mystérieuse 7e symphonie.
Vendredi 3 mars, à 20h, à l'auditorium de la Maison de la Radio.
Réservation maisondelaradio.fr.
Vous êtes bien sur Inter et les midi. Les informations, Dominique Delaroy.
Les candidats à la présidentielle et leur programme santé, un grand oral organisé par la Mutualité. François Fillon va tenter de rassurer ses électeurs avec un projet revu et corrigé, un projet qui consolide le caractère obligatoire et universel de l'assurance maladie. Pour Emmanuel Macron, l'hôpital coûte très cher. Le candidat d'En Marche propose d'améliorer l'organisation des soins et promet d'investir 5 milliards d'euros dans les hôpitaux. Benoît Hamon veut modifier le financement de l'hôpital et revenir en partie sur la tarification à l'activité. On ne gère pas un hôpital comme une entreprise, dit le candidat socialiste. Les candidats et la santé, ce sera l'un des dossiers du journal de 13h. Marine Le Pen poursuit sa visite au Liban. Ce matin, la candidate d'extrême droite à la présidentielle a refusé de porter le voile pour rencontrer le grand moufti de Beyrouth. La rencontre n'a pas eu lieu. En Israël, le soldat Azaria a été condamné à 18 mois de prison pour la mort d'un Palestinien blessé et achevé à terre. Il risquait 20 ans de prison, la peine maximale. L'épizootie de grippe aviaire n'est toujours pas stabilisée dans le sud-ouest. Stéphane Le Foll annonce des mesures radicales. Les 600 000 canards que compte encore le département des Landes vont être abattus. Réunion ce matin entre le patron de PSA, Carlos Tavares, et les représentants du personnel d'Opel. En cas de rachat du constructeur allemand, PSA respectera les accords d'entreprise en vigueur au sein d'Opel. Les nouvelles bouteilles de lait, plus opaques, plus brillantes, ont un gros défaut. Elles ne se recyclent pas aussi bien qu'avant. Pire, leur plastique perturbe les usines de tri. La ministre de l'Environnement avait donné jusqu'à hier à Eco-Emballage, l'organisme chargé de la filière, pour trouver une solution, mais elle ne satisfait pas les associations de consommateurs, Anne-Laure Barral.
Jusqu'à présent, nos bouteilles de lait étaient faites dans un plastique qui se recyclait facilement. Mais depuis que plusieurs marques ont changé pour un nouveau plastique plus léger, moins cher, le PET opaque, les recycleurs ont des problèmes pour le transformer. Ségolène Royal souhaitait donc qu'un malus soit payé par les industriels qui l'utilisent tant que son recyclage n'était pas optimum. Mais ce n'est pas ce que propose aujourd'hui Carlos de los Llanos, d'éco-emballage.
On n'applique pas de malus au départ quand on est face à une innovation. Vous avez un nouvel emballage qui vient sur le marché, qui a des réelles qualités. On regarde avec les acteurs comment on peut développer une filière de recyclage. Si jamais il y avait des difficultés, alors dans un deuxième temps, on envisagera effectivement le malus.
1,5 million d'euros d'aide aux recycleurs, améliorer l'incorporation de ce plastique avec les autres d'ici 2 ans. Voilà ce que propose Eco-Emballage, un plan insuffisant pour Flore Berlingen de l'association Zéro Déchet France.
C'est un plan de financement des recycleurs, mais pour nous, ce n'est pas acceptable. Si vous voulez choisir une bouteille recyclable, eh bien évitez le PET opaque, c'est-à-dire ces bouteilles qui sont très lisses, brillantes et qui n'ont pas d'opercule.
Le ministère expertise les propositions d'éco-emballage. Quant aux géants du lait, comme Lactalis et Candia, ils promettent de ne pas utiliser ce nouveau plastique tant qu'une solution n'a pas été trouvée.
Pas très écolo non plus, les cosmétiques. L'UFC Que Choisir en recense désormais près de 400 dans sa base de données. Des cosmétiques contenant un ou plusieurs ingrédients indésirables, voire préoccupants, comme les perturbateurs endocriniens. Même les produits pour bébés ne sont pas épargnés, souligne l'association de défense des consommateurs. Dernier jour des soldes d'hiver et le bilan est mitigé. Moins de fréquentation, moins de dépenses, regrettent certains commerçants traditionnels, mais pas si mal que ça selon d'autres. Lucas Valdener est allé vérifier dans les rues de Besançon.
Cette année encore, Jennifer a attendu le dernier moment pour sa journée shopping.
Alors une veste, un pull et un pantalon. J'ai pris la tenue complète.
Marie-Christine, elle, préfère rester raisonnable.
Je pense qu'on est tous un peu pareil, hein. C'est les moyens qui manquent.
Alors pour payer encore moins cher, Sandrine a décidé de prendre la route direction les magasins d'usine.
Je me suis rendue à Troyes le deuxième jour des soldes pour profiter au maximum des tarifs.
De leur côté, les commerçants ne sont pas tous logés à la même enseigne.
Je vais faire mon bilan dans peu de temps. Catastrophique quand même.
Pour Nadia, c'est de plus en plus difficile. Difficile de tirer son épingle du jeu pendant les soldes.
Le mot solde, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Toute l'année, il y a des promotions partout, partout, partout.
Confirmation avec Sylvie, la vendeuse de l'autre côté de la rue.
C'est vrai que tout le long de l'année, vous allez trouver des promos, des 3 jours magiques. Donc les gens, maintenant, sont éparpillés.
Heureusement pour Christophe et ses chaussures à moitié prix, il a fait beau le week-end dernier.
Ça s'est énormément resserré sur les 2 dernières semaines et ce dernier samedi a juste été historique pour nous, en tout cas.
Alors globalement, la tendance bisontine est positive, surtout comparée à l'hiver dernier. Pierre Bouvier est le président de l'Union des commerçants.
L'hiver avait été très très peu marqué. Il y avait eu beaucoup de stocks de grosses pièces. Là, il a fait froid, donc il y avait peut-être un peu moins de stock.
Et si vous cherchez toujours un pull à moitié prix, dépêchez-vous, il ne vous reste que quelques heures. Les dernières des marques affichent jusqu'à moins 70%. Lucas Valdener, France Bleu Besançon pour France Inter.
Un bodyboarder de 26 ans tué ce matin à La Réunion par un requin. Malgré les interdictions, le jeune homme évolue en compagnie de quelques amis dans une zone réputée dangereuse.
Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h.
La récréation ? Et si on faisait une pause ?
Vincent Josse.
Elle chante et elle joue aussi dans Fantasio et elle est formidable. Marianne Crébassa a reçu récemment la victoire classique de l'artiste de l'année et on est très heureux de recevoir la mezzo-soprano.
La récréation.
Tout à l'heure, à 16h, sur France Inter.
Pour faire des économies, Daniel souhaite faire des travaux de rénovation dans sa maison. Seulement voilà, Daniel ne sait pas par quoi commencer. Remplacer sa vieille chaudière, changer ses fenêtres, isoler sa toiture, sacré dilemme. Eh bien Daniel, commencez par passer un coup de fil. Contactez un conseiller rénovation InfoService qui vous aidera gratuitement à choisir les solutions adaptées et à identifier les aides dont vous pouvez bénéficier. Contactez-le au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME.
France Inter, midi 6, le journal de 13h, ce sera avec Bruno Duvic. Tout de suite, la bande originale, deuxième partie avec Nagui.
Merci Dominique Delarroix, à tout à l'heure à 13h, le journal d'Inter. Et vous serez là toute l'après-midi pour nous informer. À tout à l'heure. C'est la bande originale, soyez le bienvenu avec Lila Kalamoudakis, Sam Villa, Frédéric Sigrist, Daniel Mora, Charana qui est au clavier, et notre invité Cédric Labiche.
Cédric qui n'a pas ramené de Bourgogne.
Non.
Parce que le film n'est pas sorti encore.
Ouais. Même pas une photo non plus.
Même pas.
En fait, il est venu les mains vides.
Il dit bien du truc et tout. Même pas une petite bouteille. En plus, je suis sûr qu'il a eu des caisses et tout. Et...
J'ai donc, une photo d'une caisse, si ça vous intéresse.
Deux ans après nous avoir fait voyager entre Paris et New York avec les images liées autour de casse-tête chinois, vous revenez donc à la galerie cinéma Anne-Dominique Toussaint dans le 3e arrondissement à Paris jusqu'au 1er avril avec Nature humaine, tout ce que la nature peut avoir subi du travail de l'homme. En fait, la toile de fond reste le vin, qui est le produit le plus naturel mais qui n'est rien sans l'homme.
Absolument. Quelqu'un m'a dit un jour, le chemin naturel du jus de raisin, c'est de devenir du vinaigre. Et donc, effectivement, le travail de l'homme, c'est d'essayer de faire un peu plus que le vinaigre.
C'est l'idée du film qui a commencé à germer, ou c'est votre goût personnel pour le Bourgogne? Vous avez dit, pourquoi on raconte pas ces histoires humaines, ce qui se cache derrière une bonne bouteille de vin?
Oui, c'est ça.
Ou même derrière une mauvaise, parce que même derrière les mauvaises, il y a des histoires humaines.
Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le vin, et il y a eu un moment, j'ai eu besoin de m'intéresser à connaître mieux comment on fait du vin et à aller dans différentes régions en France. Et puis c'est en Bourgogne que ça s'est concrétisé, où d'une part je connaissais des gens depuis longtemps là-bas et ils m'ont autorisé à regarder les vendanges là-bas. Et puis j'ai vu, il y avait quelque chose qui était très à la fois familial et collectif.
Alors qu'avez-vous appris
J'ai appris que ça ressemblait beaucoup au cinéma, au monde du cinéma.
C'est-à-dire
que le monde du vin, c'est-à-dire que une bouteille de vin, ça ressemble étonnamment à un DVD, on va dire. C'est-à-dire que il y a certains vins qui vieillissent bien et d'autres moins bien. Il faut longtemps pour le faire, c'est-à-dire que ça se fait pas en un quart d'heure.
Contrairement au cinéma, il y en a qui ne vaut mieux pas consommer tout de suite et il vaut mieux attendre.
Non, c'est vrai, ouais, mais il y a justement un travail en longueur sur le fait que dans le vin,
il y a... effectivement pas regarder de DVD en conduisant.
C'est ça le grand rapport. Non, il y a dans le vin, il y a vraiment deux mondes. Il y a l'agriculture, enfin la viticulture, et puis la vinification. Et ça ressemble étrangement au travail qu'il y a sur la préparation d'un film, puis sur le montage. Et il y a vraiment des étapes différentes sur le fait qu'il y a une maturation dans les deux cas.
Et le réalisateur, c'est le maître de chez ?
Absolument, ouais. Il y a vraiment comme ça des notions, entre guillemets, œnologiques quand on fait un film.
Alors vous appelez votre film « Ce qui nous lie », le film sortira le 14 juin, on sent bien l'histoire humaine, justement, et l'équilibre à trouver dans le rôle de chacun dans ce monde du vin. Ce jeu de mots n'est quand même pas innocent,
non.
Même si vous aimez toutes les formules qui commencent par « ce que nous »,« ce que je », »,« ce que il ». La lie, c'est ce qu'il y a de c'est le dépôt qu'il y a dans le vin. C'est peut-être pas forcément le meilleur, meilleur côté du vin.
Mais c'est ce qui reste. Et donc, bon ou mauvais, moi j'aime bien m'intéresser à ce qui reste.
L'exposition est avec ses photos, donc avec la patte de l'homme, quelques présences humaines que l'on peut ressentir.
Comme un duris qui est caché dans les vignes, je le rappelle.
Peut-être.
C'est gratuit, il faut dire que l'accès à la galerie est gratuite. Donc ça, c'est l'occasion, si vous venez faire un tour à Paris ou si vous êtes parisien, de vous promener dans le 3e, il y a pas mal de galeries.
Ouais.
Et donc, et si vous êtes une pince, de vous distraire.
Si t'as pas
trop les moyens, de pouvoir profiter comme ça d'une très belle exposition.
De profiter aussi des couleurs, de la lumière.
Ouais, non, tous ces choix-là sont importants. Par exemple, il y a un mur dans la galerie où on a alterné des fleurs, enfin, ou en tout cas des vues dans des vignes ou dans des champs.
Ça, ouais.
Et puis, ce qu'il y a à l'intérieur des maisons, et il y a souvent du papier peint avec des fleurs dans l'intérieur des maisons. Donc, j'ai essayé justement d'avoir une espèce de regard croisé entre ce que mettent les gens à l'intérieur de leur maison et ce qu'ils voient à l'extérieur de leur fenêtre. Et souvent, il y a un rapport entre les deux. Donc,
par exemple, d'une photo.
Alors, ça compte et c'est très souvent lié justement à quel type d'appareil photo j'ai utilisé. Moi, j'aime bien utiliser des formats moyens, je dirais, pas des énormes tirages, parce que j'aime bien le côté brut et j'aime bien qu'on sente le côté numérique des photos. Et j'aime bien le fait qu'il y ait une opposition, disons, entre le côté numérique des photos et la nature qui est représentée. Il y a un côté non naturel de la photographie, et que justement ça raconte aussi une activité humaine.
Donc vous n'êtes pas un photographe cinéaste qui n'aime que les grands écrans, les grandes
dimensions. Au cinéma, j'ai tendance à aimer les grands écrans. quand j'ai travaillé 4 ans sur un film et que quelqu'un le regarde sur un iPhone, il y a une partie des choses qu'il voit pas, on va dire. Mais c'est son histoire, c'est plus la mienne.
C'est son histoire et c'est pas la nôtre. Voici l'humeur de Daniel Morat.
La rumeur a été confirmée. Mais oui, à l'époque où il racontait sur Europe 1 ses histoires terrifiantes, Pierre Bellemare était bien à poil face à son micro. Il l'a avoué récemment.
Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ouais, il était nu. Chez lui, il était nu. Il avait une ligne Meris, évidemment.
À la maison.
Et bien maintenant, on sait pourquoi les audiences d'Europe se cassent la gueule. Les auditeurs veulent de l'animateur tout nu. Je sais qu'en radio, ça se voit pas. Ça se voit pas, mais ça se sent. Oui, parfaitement. Un animateur nu, ça se sent plus libre, plus à l'aise, moins engoncé dans son récit. Il donne plus la ménagère de moins de 50 ans, elle adore ça, comme celle de plus de 50 ans d'ailleurs. Elle y est très sensible. Et ça, Morandini l'avait très bien compris, l'importance de la nudité dans les médias. Moi, du coup, je milite pour l'instauration de l'animation nue en studio. En plus, ça demanderait pas beaucoup d'efforts pour certains. Nagui, qui anime déjà en slip, n'a pas beaucoup à faire pour se débarrasser du superflu. Laure Adler, dans l'heure bleue, elle est en nuisette. Eh ben, ça se sent à l'antenne. Sa voix est fluide, son ton est convivial. Ça donne envie. Reste plus qu'à convaincre Patrick Cohen, le phare de France Inter. Le problème, c'est inévitablement, ça créerait d'énormes jalousies. Bref, militons pour le nu. Allez, on passe à quelque chose de totalement différent. On passe à l'évocation d'un anniversaire bien triste, ma foi. Il y a tout juste 344 ans, disparaissait Molière. Ben ouais. Molière, à qui on doit des textes de légende, les fourberies de Scapin, le malade imaginaire, la chef de Monsieur Seguin, Rabbi Jacob, l'arme fatale, Crocodile Dundee, ou encore Gorge profonde. Molière, mort sur scène comme un soldat de la comédie, un stacanoviste de l'entertainment.
Il n'est pas mort sur scène.
Si, tais-toi. Un Terminator du showbiz. Peut-on rêver, plus belle mort? Une mort de grand panache que vous mériteriez, Nagui.
Salut.
Imaginez la beauté de la chose. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, bienvenue dans Taratata ce soir, comme à chaque fois dans Taratata, du beau, du lourd, du frais, du moins frais aussi. On commence avec un artiste, un ami, un frère, Christophe Maé. Pour Christophe, faites du bruit. Ah, wow, la classe. Le savoir partir du mec. J'imagine les infos le lendemain. On commence par la nouvelle qui attriste la France entière, la mort de Nagui hier soir pendant le direct de Taratata. Alors bien sûr, depuis hier, les réactions pleuvent. Christophe Maé a déclaré « Il aurait quand même pu attendre que j'avais fini ma chanson ». Patrick Balkany déclare avoir perdu un frère de partouze. Michel Drucker, toujours sur la brèche, a déclaré « Si ça peut rendre service, je suis prêt à reprendre Taratata ». Laurence Bloch, la directrice de France Inter, a sobrement dit « Ça m'arrange ». Madame Nagui, en larmes, n'a pas dit un mot ce matin à 6h pendant qu'elle attendait devant le bureau du notaire pour l'ouverture du testament.
Oh,
Delphine Ernotte, la directrice de France Télé, a sobrement déclaré notre reporter « Putain, mais c'est horrible !» Il va vous manquer. « Non, Nagui, je m'en fous, mais maintenant j'ai 2 trous énormes dans ma grille quotidienne. » Bref, un chagrin immense. Une mort en direct suivie par plus de 19 millions de téléspectateurs. Saluons pour conclure un Nagui toujours très pro, Nagui qui en s'écroulant et juste avant que sa tête ne heurte le sol, regarde la caméra en souriant et balance son légendaire « Ciao, ciao, ciao !» A signaler que la crémation de l'animateur vedette aura lieu dans la plus stricte intimité demain soir à 23h devant la pyramide du Louvre. En direct sur France 2, évidemment. Repose en paix, l'Égyptien.
Merci. France Inter, la bande originale avec Nagui.
Toutes les images.
Ah, s'il te plaît, viens faire un papier à mon enterrement.
Avec plaisir.
S'il te plaît. Cédric Lapiche, notre invité. Le film sortira le 14 juin, ce qui nous lie. Dans quel état on est à la fin d'un film? Il y a un côté
épuisé.
Tout est là dans les...
Parlez-nous, Cédric. Ouais.
Non, ou alors on est soulagé aussi.
Ouais, je suis soulagé. C'est-à-dire que c'était un film qui était difficile à faire parce qu'il fallait être patient. Et ça a été un film très facile à faire parce qu'il y avait quelque chose d'assez gracieux dans le rapport entre les gens, tous les gens de l'équipe. Je sais pas si c'est le vin qui a fait ça, mais entre.
Ouais, dans quel état il faut être pour voir le film?
Sobre.
On peut être à vin.
Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Non, je pense que c'est un film qui parle beaucoup du plaisir de boire, donc du plaisir du vin, et donc. Il paraît que ça donne envie de boire. Donc,
et puis il y a l'histoire humaine quand même, parce que la toile de fond c'est le vin.
Et je remercie beaucoup le trio Pio Marmaille, François Civil et Anna Girardot, et Jean-Marc Rouleau qui est acteur et vigneron, parce que ces quatre acteurs-là, ils ont vraiment fabriqué quelque chose d'assez fort dans le film.
Tout à l'heure, Daniel Morin évoquait la possibilité de faire une émission de radio nue. Mmh. Justement, comment vous, qui êtes photographe, qui vous attachez à la lumière, réalisateur, traitez le nu? Est-ce que vous avez déjà fait des photos de nu?
Ouais. C'est très difficile à faire parce que c'est toujours la question du beau qui se pose, c'est-à-dire que
la lumière est extrêmement importante.
Voilà, c'est vrai d'un paysage naturel ou d'un corps, ça peut être très moche, très banal, ça peut ressembler à une carte postale ou ressembler à quelque chose d'intéressant. Il y a des grands maîtres du nu en photo, et c'est justement, ils arrivent à trouver des angles ou des lumières ou des façons de se positionner qui font qu'un corps peut devenir sublime. Ou très très moche. Et on joue là-dessus. Il
faut que la personne soit prévenue aussi.
t'es resté là. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour Boudadi, habillée pour Cédric Lapiche.
Absolument habillée. Cédric Lapiche, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence avec un son pour vous.
Ah, le loup de Tex Avery. Qu'est-ce que j'adore ça.
Voilà, c'est un extrait, vous l'avez reconnu, de Tex Avery, dans lequel le loup devient complètement fou parce que le petit chaperon rouge se transforme en une chanteuse de charme. Tex Avery, pourquoi je vous en parle? Parce que vous avez fait une maîtrise de cinéma, Cédric Lapiche, au début des années 80, qui portait sur Tex Avery, Woody Allen et les Marx Brothers, je cite, le non-sens au cinéma, sixième sens du septième art.
Voilà.
Ouais.
J'ai commencé comme ça.
Ouais. Et dans les références, vous citez Tex Avery, mais dans les interviews, vous citez aussi Kubrick, la Dolce Vita, Fellini. Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Vous Molière. Avez...
vous avez juste un panel extra large.
Oui, alors.
Et vous les revendiquez d'une certaine façon.
Non, j'aime bien l'éclectisme. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai tendance à considérer que la culture c'est très large. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai fait l'Auberge espagnole, je me référais à Goscinny parce que il avait bercé mon enfance, ou à Gottlieb. Mm-hmm. Et c'est pas forcément des gens qu'on met au rang de Molière ou de Flaubert. Donc je trouve que la culture, on dit pas assez à quel point. Il n'y a pas des grands auteurs et des petits auteurs. Il y a des auteurs, il y a des gens qui font de la création. Et je pense qu'on peut s'inspirer de petites choses ou de grandes choses. Donc, il n'y a pas la notion de grands hommes quand on est soi-même créateur et qu'on a envie d'inventer des choses.
Et quand vous faites référence au non-sens au cinéma, si je reprends l'intitulé de votre mémoire de maîtrise, quels sont les cinéastes aujourd'hui qui vont dans ce sens-là ou qui vous intriguent?
Justement, ils n'y vont pas, non, c'est un non-sens.
D'accord.
Les gens qui font du non-sens.
Ouais, qui font du non-sens.
Aujourd'hui, il y en a pas mal quand même, parce qu'il y a eu l'Argentin là qui a fait un film qui s'appelait Les Nouveaux Sauvages, ça s'appelait comme ça. C'était un film à sketch.
Ouais.
Et Damian Cifron, il s'appelle. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vrai que c'est l'esprit des Monty Python, c'est l'esprit de Alain Chabat, par exemple.
Ouais, c'est l'absurde. Ouais.
C'est l'absurde, et c'est souvent le fait de mentionner le fait qu'on est en train de raconter un film ou de c'est la mise en abîme
de la narration. Ouais.
Donc les Anglais sont en général très forts sur ça, sur le fait de mélanger le fond et la forme.
Disons. Et un film comme ça, ça vous tenterait, vous, de vous lancer dans une aventure semblable à...
Oui, ça me tente. Disons que moi, j'ai jamais fait de vraie comédie, que ce soit Un air de famille ou même 10%, qui est une série comique.
Revient bientôt, d'ailleurs. Je sais pas si vous.
Oui, il y a une deuxième saison que je n'ai pas fait, mais qui
vous l'avez pas fait
sortir
parce que
en avril.
Parce que vous étiez en tournage, justement.
Bah, j'avais dit que je ferais qu'une saison, donc je savais pas s'il y en aurait une deuxième, mais en tout cas, je savais que pour moi, ce qui était intéressant, c'était de lancer justement le début d'une série et donc je voulais pas continuer. Donc
pardon, je vous ai interrompu quand vous disiez qu'il y avait des séries qui elles pouvaient s'appuyer sur le non-sens, justement sur l'absurde.
Oui, et puis moi, j'aimerais bien arriver à faire un film comique comme ça, mais je sais pas si j'en suis capable. Donc j'aimerais bien essayer un jour en tout cas.
Je sais pas si vous avez, je n'ai pas lu votre thèse sur Tex Avery, Woody Allen
et les Marx Brothers.
Mais Tex Avery, on l'a beaucoup accusé de racisme dans les choix des dessins, par exemple, quand dans un dessin il y avait une explosion et que le bonhomme était entièrement noir de la suie ou de la poudre après l'explosion, il se mettait à chanter du gospel et on disait c'était un acte raciste de sa part. Autrement dit, le non-sens peut au contraire faire passer soit des messages réels, si c'était le cas, ou la vanne, il faut tout de suite dire non, c'est une blague.
Il y a le fameux peut-on rire de tout. On a bien vu à quel point, avec Charlie Hebdo, la question
s'est posée,
s'est posée et se pose toujours. Et justement, le côté bête et méchant, ou le côté on a le droit de rire de choses atroces, c'est une façon de rire et je pense que c'est important.
On poursuit avec un autre son.
Mais allez, franchement, allez jusqu'au bout du mouvement. Et vous hésitez, alors vous ne faites rien. Alors on en rate quelques-uns, et puis après on finit par réussir.
C'est la voix de Jacqueline Moreau, le professeur de danse d'Aurélie Dupont, la danseuse étoile, que vous avez suivi pour un très beau documentaire, L'espace d'un instant.
Elle a porté plainte d'ailleurs.
Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre Aurélie Dupont? Vous avez suivi le perchiste Renaud Lavillenie, déjà.
Ouais. Il poursuit plein de gens.
Vous avez un rapport au documentaire, au sport, j'ai l'impression, à la performance physique, qui est pas anodin.
Alors, il se trouve que ces deux films ont une relation, parce que ce sont deux sportifs, en fait. Aurélie Dupont, danseuse étoile, c'est une sportive. Et j'aime bien filmer les corps. Donc, c'est vrai que filmer un sauteur à la perche ou une danseuse, ça peut avoir des rapprochements. Mais disons que dans les deux cas, c'est plutôt deux personnes exceptionnelles. Ouais. Il y a un recordman du monde de saut à la perche, et puis il y a une grande, grande danseuse.
Et vous étiez là au moment du record, d'ailleurs, ouais. Au point d'en pleurer au moment de filmer.
En filmant, ça se voit pas, mais pour moi, quand je fais du documentaire, c'est intéressant de prendre un sujet qui est intéressant, je dirais. Donc là, en l'occurrence, c'était deux sujets intéressants. Pour Aurélie Dupont, c'est l'Opéra de Paris qui m'a demandé de faire un portrait. J'ai tout de suite dit oui, parce que moi, j'adore la danse et ça m'a permis de connaître encore mieux la danse. Je connaissais pas la danse classique, donc là, j'ai vraiment appris en faisant ce film les coulisses de la danse classique et les coulisses de l'opéra. C'était magique. Et je suis très content que ce film ait gagné des prix et soit resté marquant, parce que je pense que la danse a besoin d'être... on a besoin d'aider la danse. Les gens, finalement, c'est un des arts qui est le moins aidé. Et je pense qu'il faut aller voir des spectacles de danse. Il y a quelque chose en plus d'assez fort en France, que ce soit dans la danse classique, dans la danse contemporaine ou dans le hip-hop, où il y a quelque chose qui se passe dans ce pays avec la danse. Et du coup, faut faire la publicité de la danse. Ouais.
Et filmer le réel, comme vous le faites, d'une certaine façon, s'il y avait d'autres sujets, au-delà de sportifs, qui pourraient vous intéresser à traiter dans un documentaire. Vous êtes revenu sur l'histoire de vos grands-parents, dans mon livre d'histoire, qui sont morts à Auschwitz.
Ouais.
Et est-ce qu'il y aurait d'autres sujets comme ça de documentaires qui vous titillent et qui vous donneraient envie de vous lancer?
Ce film-là, il est né d'une façon bizarre. C'est Victor Robert, que je connais, qui est producteur et qui m'a demandé, est-ce que tu voudrais faire un carnet intime? Et du coup, il y avait la pose d'une plaque en mémoire à mes grands-parents qui sont morts pendant la guerre. Donc du coup, j'ai décidé de filmer ça sans savoir si c'était un sujet de film. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, le film s'appelle Mon livre d'histoire et c'est le rapport entre ma petite histoire familiale avec l'histoire avec un grand H. Et de voir que je pense que c'est vrai pour chacun. On a un rapport entre son histoire personnelle et puis la grande histoire. Donc ce film parle de ça et de ce qu'on peut transmettre ensuite à ses enfants. Donc moi j'ai 3 enfants et j'avais envie qu'ils gardent un souvenir de cette chose qui a marqué la vie de ma mère, qui était orpheline à 9 ans, quoi.
Et pour finir, un petit cadeau, il y a une exposition en ce moment à la BNF consacrée à la France d'Avedon. Je ne sais pas si vous avez vu cette exposition.
Non, pas encore, mais j'adore Avedon.
C'est
une expo gratos, mais c'est une invite quand même.
Non, c'est pas une expo gratuite, mais c'est un partenariat France Inter. Donc voilà, ça vous permettra d'y aller avec la personne de votre choix. Mais non.
Tu délires, tu t'offres un laissez-passer pour aller voir une expo photo.
Et un abonnement a paru vendu
tu
aussi.
Tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi? Parce que souvent les expositions, on y va, enfin on sait qu'elles existent, on prend jamais le temps d'y aller. Et moi j'y vais quand on m'invite, d'accord, quand on me dit tiens viens avec moi. Donc voilà.
Ah non, super, merci. Parce que vraiment je suis très fan d'Avedon.
Ouais. Merci.
Des excuses à présenter à part celle-là?
Vous êtes vraiment méchant. Hein. C'est France Inter en plus.
Désolé pour Scarlett Johansson et Jessica Alba, voilà, qui nous écoutent tous les jours, je le sais, qui ont peut-être été déçus les propos de Tom Villa. Alors, regarde, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous les filles. Eh oui, moi je vous préfère largement à Cédric Clapiche. Et si vous venez à la fin de l'émission et que vous êtes gentil avec moi, allez, je vous invite à la cantoche de Radio. Désolé pour Cédric Clapiche qui a quand même sacrément flippé après la déclaration d'amour de Tom Villa. Je vous rassure, on a appelé la sécu, les menottes vont être passées d'ici quelques secondes. Vous avez 5 minutes d'avance. Allez, filez Cédric. Désolé enfin pour Patrick Cohen, Nicolas Demorand, Kathleen Evin et tous les piliers de comptoir de Radio France qui se sont précipités dans le studio quand ils ont entendu parler de Pinard ce matin. Désolé, c'est juste une expo photo sur les vignes en Bourgogne. Allez, bonne santé quand même, à la vôtre.
Lucas Bellevaux et Guillaume Guy seront nos invités demain pour parler de chez nous. Cédric Clapiche est venu nous présenter l'exposition Nature Humaine qui a lieu à la Galerie Cinéma Anne-Dominique Toussaint dans le 3e arrondissement de Paris jusqu'au 1er avril, en attendant le film qui sortira le 14 juin, Ce qui nous lie. Merci mille fois Cédric.
Merci à vous
d'être venu. Bonne journée, voici les carnets de campagne justement avec Philippe Bertrand.
Merci Nagui, merci les amis, à demain.